c'est que le président iranien vient de faire sa première visite à Bagdad. Ils doivent se dire vraiment avoir lancé une guerre contre l'Irak pour que le président iranien puisse se rendre à Bagdad, c'est une politique qui nous échappe.
Come out! Open the door! Get your hands up and come outside! Everybody in the house needs to come outside.
Out of here you go. Keep going.
How many Iraqis, Gavin? Endless killing spree. How many kids can you kill? And send the lower class the bill so you can drive your kids to soccer practice in your SUV. Hey!
Right here.
On continue et on finit avec le diplôme de ce mois de mars avec Maurice Lemoine. Avec un sujet qui n'est pas dans le diplôme de ce mois de mars d'ailleurs, Ingrid Betancourt. Alors la question est, quand ?
Bon, c'est évidemment la grande actualité sur l'Amérique latine qui a un côté exaspérant. Qui a un côté exaspérant, non pas parce que nous aurions de quelconque insensibilité par rapport à Ingrid Betancourt, mais parce que elle cache la réalité colombienne. Bon. On a eu un événement important ces derniers temps qui a été la mort de Raoul Reyes, qu'on considérait comme le numéro 2 des FARC, et qui était son principal négociateur, son ministre des Affaires étrangères.
El ejercicio de todas las formas de lucha de masas, su inmenso amor por la causa de los oprimidos, será un referente de lucha revolucionaria. Paz en su tumba. Contra la oligarquía por el pueblo, contra el imperialismo por la patria, somos FARC, Ejército del Pueblo. Atentamente, Raúl Reyes, Comisión Internacional, Montañas de Colombia, enero 24 de 2007.
Alors, la mort de Reyes en soi, je vais dire, n'a rien de... Et je ne veux pas paraître cynique, mais n'a rien de scandaleux. C'est-à-dire, pour un guérillero, la mort, c'est un accident du travail. Cela étant, les conditions dans lesquelles il a été tué, évidemment, posent problème. Parce qu'en fait, ça constitue, premièrement, un coup d'arrêt à la négociation qui était en cours pour la libération des prisonniers et des otages. Et, deuxième point, elle a lieu sur le territoire équatorien, au mépris des lois internationales. On ne peut pas, c'est-à-dire, les lois internationales ne permettent pas de poursuivre ses ennemis dans n'importe quel coin du monde et de violer la souveraineté des États environnants. Pourquoi est-ce que la mort de Reyes interrompt les négociations qui étaient en train d'avancer, et en particulier grâce à la médiation du président Hugo Chavez, le Vénézuélien? Il faut d'ailleurs rappeler que Chavez n'est pas entré dans cette affaire parce qu'il voulait jouer le caïd du quartier, mais parce qu'une sénatrice colombienne, Queda Cordoba, qui appartient à un parti de droite, le Parti libéral, lui a demandé d'intervenir. Et puis ensuite, les familles des otages et prisonniers lui ont demandé d'intervenir. Pour la première fois depuis des années, on a eu une avancée, y compris une ouverture de la guérilla, puisque 6 otages ont été libérés inconditionnellement et d'une manière unilatérale. On était donc dans une voie positive. Raoul Reyes était le contact, ou l'un des contacts en tout cas, et le contact principal, puisque c'est lui que venaient voir les journalistes, c'est lui que venaient voir les émissaires français, suisses, espagnols, puisque un certain nombre de pays sont impliqués. La mort de Reyes, évidemment, était un coup d'arrêt. Et là, évidemment, on déclenche une crise régionale, puisque Reyes est plus en territoire équatorien. Ce qui, évidemment, provoque immédiatement une réaction courroucée du président Correa.
Et Chavez aussi, puisqu'il y a, on a un risque de conflit.
Risque de conflit, non. Il y a eu une montée aux extrêmes. Le président Chavez a montré sa force pour pas avoir à s'en servir. Ça, c'est mon interprétation. Je veux dire, en envoyant 10 bataillons sur la frontière. Cela étant, les services de renseignement vénézuéliens sont très préoccupés en ce moment, non pas par une invasion massive du Venezuela par la Colombie, ce qui n'aurait aucun sens, et ce qui, y compris d'un point de vue militaire, serait quasiment impossible, puisque à ce moment-là, la Colombie se dégarnirait à l'intérieur face à la guérilla, donc on est bon. Mais en même temps, je veux dire, la frontière colombo-vénézuélienne, qui fait 2300 km, est un lieu de passage des fameux paramilitaires qui sont théoriquement démobilisés. Or, je rappelle qu'il y a 5-4 ans, on a arrêté 80 paramilitaires colombiens à Caracas, dans la banlieue de Caracas, où ils devaient, vêtus d'uniformes de l'armée vénézuélienne, attaquer des installations militaires pour faire croire qu'il y avait à nouveau un coup d'État, une tentative de coup d'État au Venezuela.